les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Sabrina Robert-Quende, professeure de droit public à l'Université du Mans, nous propose une lecture des enjeux de la lutte contre les changements climatiques au regard du droit international. Deuxième épisode, l'Union européenne et la lutte contre les changements climatiques.
Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Amicus Radio. Aujourd'hui, pour continuer à explorer le droit international du climat, et plus précisément la manière dont les traités climatiques peuvent être mis en œuvre par les États, nous allons nous intéresser au dispositif européen de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il est impossible de tous les passer ici en revue. Je vais m'intéresser aux aspects les plus spécifiques du droit de l'Union européenne. Alors pour commencer, je rappellerai que l'Union européenne et les États membres sont partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, au protocole de Kyoto de 1997 et à l'accord de Paris de 2015. Et depuis l'origine de la mise en œuvre de cette architecture internationale du climat, l'Union entend être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. De ce fait, les engagements concrets de l'Union européenne dans ce domaine sont plutôt ambitieux, même si dans les faits, de nombreuses difficultés, qui sont juridiques, économiques et politiques, contrarient souvent ces ambitions. Je l'ai dit précédemment, c'est dans le protocole de Kyoto de 1997 que l'on trouve les premiers engagements concrets pour lutter contre le réchauffement climatique. Le protocole de Kyoto, il permet à des groupes de pays d'atteindre conjointement leur objectif. Et c'est ce qu'ont décidé de faire les États membres de l'Union européenne, qui sont alors 15 au moment de la signature du protocole. C'est un engagement de 8% d'abaissement des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 qui est pris par l'Union européenne. Et cet objectif de 8%, ensuite, il se décline en des objectifs nationaux qui tiennent compte des capacités économiques respectives des États membres. Alors ce dispositif, il a été fixé par une décision de la Commission européenne du 14 décembre 2006. Et cette décision, elle a fait l'objet de mesures nationales d'application dans chacun des États membres. Alors en France, par exemple, c'est dans le premier plan climat de 2004, qui a été révisé à l'occasion en 2006, que les mesures d'application concrètes de la décision ont été définies. Et le plan climat, il décline une multitude de mesures dans tous les secteurs de l'économie, et de la vie quotidienne des Français. Alors ce plan, il définit bien évidemment des mesures qui visent à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple l'introduction d'une taxe sur le charbon, ou le renforcement des dispositifs de contrôle des rejets des gaz industriels. Mais il définit aussi tout un tas de mesures d'adaptation, comme par exemple le développement des biocarburants, ou l'augmentation des aides d'État pour le développement des énergies renouvelables. Ce premier volet du protocole est essentiel. Mais la principale particularité du traité de 1997 est qu'il crée des mécanismes de flexibilité qui permettent une gestion globale à l'échelle planétaire des quotas d'émission des gaz à effet de serre. Parmi ces mécanismes, il est possible de mettre en place des marchés d'échange de quotas d'émission entre les pays. Et c'est là que se démarque véritablement l'Union européenne, qui a adopté le plus vaste, qui a mis en place le plus vaste marché de ce type entre les pays de l'Union. Alors, ce système d'échange de quotas européens d'émissions de gaz à effet de serre, il concerne aujourd'hui les 28 États membres, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Il couvre 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et il est censé permettre une diminution de 20% des émissions en 2020 par rapport au niveau des émissions en 90 et une diminution de 50% en 2050. Alors, ce système, il a été mis en place par une directive de 2003. Comment est-ce qu'il fonctionne, très concrètement? Il cible 115 000 installations européennes industrielles à forte consommation d'énergie. Ces installations industrielles se voient attribuer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles ne doivent pas dépasser. Alors ces quotas, ils sont définis par l'Union européenne et ils sont ensuite alloués par les États à chaque installation concernée. Ces quotas, ils peuvent être échangés entre installations industrielles, soit sur des places de marché, soit de gré à gré. Alors ce système d'échange de quotas d'émissions repose sur une pure logique de marché. D'ailleurs, on dit souvent que le protocole de Kyoto est plus un accord économique qu'un traité de protection de l'environnement. Ce système d'échange, pour le dire autrement, c'est un marché du droit de polluer. Même si les quotas, qui sont définis chaque année par l'Union européenne, doivent diminuer, précisément d'année en année. Alors ce dispositif, qui est toujours en vigueur, il a permis de canaliser une partie des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Mais il a aussi connu de nombreux dysfonctionnements, dus à l'insuffisance de l'encadrement juridique d'un mécanisme qui est complètement nouveau en droit de l'Union européenne. Alors on a pu observer que certains quotas d'émissions de gaz à effet de serre ont été suralloués et on a aussi observé des fraudes notamment à la TVA. Alors, en raison de ces dysfonctionnements, l'Union européenne a réformé en profondeur le mécanisme en 2017 pour mieux réguler ce marché qui est un peu atypique. Mais les rouages principaux de ce marché des émissions de gaz à effet de serre, des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, restent fondamentalement inchangés. Voilà pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto au niveau du droit de l'Union européenne. Et je vais maintenant m'intéresser à la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015.
Des protestations contre l'inaction face au changement climatique semblent avoir été entendues par certains membres de l'Union européenne. 8 pays réclament aujourd'hui une stratégie ambitieuse pour s'attaquer à ce problème et souhaitent consacrer un quart du budget total de l'Union à sa lutte. Le président Emmanuel Macron et le premier ministre néerlandais Mark Rutte ont déclaré dans la semaine qu'ils formaient une coalition derrière des idées communes, notamment celle d'un objectif zéro carbone. Les deux hommes ont aussi réaffirmé leur volonté pour l'Union européenne d'avoir des émissions de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. À l'heure actuelle, les États membres sont tenus de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2020. L'objectif étant de les réduire à 40% d'ici 2030. Mais plusieurs pays s'opposent au renforcement des engagements actuels qui se sont avérés difficiles à respecter 2 ans seulement après la signature de l'accord climatique de Paris. Le géant politique et économique allemand en fait partie, craignant que de nouvelles mesures ne nuisent à son industrie. La Pologne, qui dépend toujours du charbon pour son électricité, y est également réfractaire. Cependant, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, mais aussi la Suède, affirment tous que leurs citoyens sont clairement préoccupés. Comme en témoigne la récente mobilisation des jeunes Européens, avec une vague de marche organisée à travers le continent.
L'extrait que l'on vient d'entendre, c'est un reportage d'Euronews qui a été réalisé au printemps 2019. Alors en écoutant cet extrait, on comprend que les États membres de l'Union Européenne, même s'ils ont accepté l'idée de faire front commun dans la lutte contre les changements climatiques, sont en réalité divisés sur le niveau d'engagement qu'ils sont prêts à accepter. Alors cela est dû à des intérêts économiques divergents entre les États, on l'entend très bien dans l'extrait, et cela se comprend d'autant plus avec l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris en 2017. Ceci dit, sur le plan juridique, l'Union européenne a mis en place un dispositif de mise en œuvre de l'accord de Paris qui est très intéressant. On a vu que cet accord de Paris, il met en place une normativité douce, sans contrainte sur les parties contractantes et en leur laissant la liberté de définir, dans les contributions déterminées au niveau national, leur niveau d'engagement en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Sur cette base, l'Union européenne a défini une gouvernance européenne de l'énergie et du climat qui réinjecte en quelque sorte un peu plus de contraintes dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors d'une part, au niveau de l'Union européenne, c'est une contribution déterminée au niveau national commune qui a été définie. Les politiques climatiques des États membres sont donc liées à un seul et même objectif européen. D'autre part, un règlement européen de 2018 met en place un mécanisme de surveillance de ces politiques climatiques. Et dans ce règlement, la Commission européenne se voit reconnaître la responsabilité d'évaluer les plans nationaux intégrés des États quant à leur politique énergétique et climatique. Et le cas échéant, dans cette évaluation, la Commission peut formuler des recommandations à l'adresse des États membres, y compris des recommandations sur le niveau d'ambition des politiques nationales. Alors, dans le texte du règlement, il ne s'agit que de recommandations qui peuvent être émises par la Commission, pas d'injonctions Mais toujours en vertu de ce règlement, les États sont tenus de tenir dûment compte de ces recommandations dans un esprit de solidarité entre les États et l'Union européenne. Et si un État choisit de ne pas suivre les recommandations de la Commission, il doit justifier sa position. Avec un tel dispositif, la marge de manœuvre des États est donc nécessairement limitée. La Commission a rendu ses premières recommandations en juin 2019. Alors, dans son rapport, elle constate que certains plans nationaux sont très ambitieux et qu'ils devraient permettre d'atteindre les objectifs de l'Union, mais elle pointe également du doigt les faiblesses de certains autres dispositifs nationaux. Il reste donc à voir comment les États vont réagir à cette première évaluation. Pour finir, je voudrais insister sur la difficulté qu'il y a à élaborer des politiques climatiques pérennes qui soient réalistes du point de vue économique et soutenables du point de vue politique. L'Union européenne fait clairement figure de bonne élève dans la lutte contre les changements climatiques. Ses objectifs sont ambitieux et elle a développé des outils intéressants pour les atteindre. Mais même dans un cadre juridique aussi intégré que l'est l'Union européenne, il est extrêmement difficile d'avoir un front uni entre tous les États et d'avoir une politique climatique infaillible. Et d'ailleurs, la politique climatique de l'Union européenne est loin d'être infaillible. Elle est aussi loin d'être totalement parachevée. Ici, il me semble important de mentionner une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. En juillet 2018, une action a été intentée devant elle par un groupe de requérants de plusieurs nationalités. Et ces requérants contestaient la légalité des mesures européennes fixant les niveaux d'engagement climatique de l'Union, au motif que ces niveaux n'étaient pas suffisamment ambitieux par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. La Cour de justice a examiné l'affaire et elle a rendu une ordonnance en mai 2019, dans laquelle elle rejette la recevabilité de la plainte. Alors ici, la Cour a fait une application très classique de sa jurisprudence concernant la recevabilité des requêtes qui émanent des justiciables privés. Ce n'est que dans des conditions très spécifiques que des requérants privés, qui sont ce qu'on appelle des requérants non privilégiés par rapport aux États membres ou aux institutions de l'Union européenne. Donc ce n'est que dans des conditions très spécifiques que ces requérants peuvent engager un recours en annulation contre un acte de l'Union européenne. Mais dans l'affaire dont il est question, dans l'affaire Carvalho, ça pose un véritable problème juridique. Puisque devant la Cour de justice de l'Union européenne, et pour les actes de l'Union européenne, cette affaire illustre le fait que le droit d'accéder à un juge dans le domaine de l'environnement, qui est un droit fondamental, consacré par la Convention d'Aarhus à laquelle est partie l'Union européenne, ce droit n'est pas garanti devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le système donc du droit de l'Union européenne. Alors cette affaire, elle amène à penser que la politique climatique de l'Union doit être renforcée, non pas seulement en termes d'engagement de diminution des gaz à effet de serre qui doivent être plus ambitieux, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Cette politique climatique, elle doit aussi être renforcée avec le développement de garanties juridiques supplémentaires qui permettront de contrôler l'action de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'action bien évidemment des États membres, mais l'action aussi de l'Union européenne. Donc pour aujourd'hui, je terminerai par ce constat. Le droit de l'Union européenne de la mise en œuvre des traités climatiques, c'est un droit qui fait partie probablement des plus ambitieux, mais c'est un droit qui n'est pas encore complet et qui doit être développé, notamment en instaurant des mécanismes qui vont permettre véritablement d'instituer un contrôle et une responsabilisation des parties prenantes et des acteurs principaux dans la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.